Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au début des années 50, Sacha Guitry feuilletait, pour les auditeurs de la chaîne parisienne, son livre « Cent merveilles » publié chez Solar et restituait ses admirations multiples. Ainsi, un portrait de Napoléon, ce qui l'entraînait à nous lire, d'une manière très indiscrète, une lettre d'amour. Ce soir-là, nous étions le 26 avril 1954.
Pierre Lost présente Sacha Guitry dans Les Cent Merveilles.
J'ai toujours eu pour les ébauches, pour les croquis, pour les esquisses, une prédilection particulière. Or, à la page 61, si vous voulez bien vous y rendre, nous avons sous les yeux l'une des plus belles qui soit, Bonaparte par Louis David. Et maintenant, je me permettrai de vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil à la page 109 sur Louis David lui-même et par lui-même, car il n'est pas inintéressant de pouvoir regarder simultanément un chef-d'œuvre et celui qui l'a fait, et qui s'est fait lui-même sans indulgence aucune. Nous ne saurons jamais, sans doute, pourquoi David n'a pas terminé ce portrait de Bonaparte. Bonaparte ne l'a-t-il pas aimé? David n'en a-t-il pas été satisfait? On est en droit de faire ces deux suppositions, et même, on en peut faire une troisième encore. David et Bonaparte en ont peut-être été tellement enchantés l'un et l'autre qu'ils se sont dit « restons-en là, puisque tel quel il est admirable ». Et l'empereur aurait pu même ajouter « d'ailleurs, comme je ne veux pas que vous risquiez de l'abîmer, je vous défends de l'emporter, je le garde comme il est ». Le nombre presque incalculable des portraits qui ont été faits de Napoléon tant à prouver combien il devait être insaisissable. Il donne l'impression d'un homme qui ne pouvait pas rester en place et que l'idée même de poser devait exaspérer. On n'imagine pas en effet se tenant aux ordres de quelqu'un, même d'un peintre de génie. David a fait de lui plusieurs portraits. Ils sont tous célèbres, mais le plus célèbre est sans doute celui qui s'intitule « Bonaparte franchissant les Alpes ». Le cheval est cabré, Bonaparte fait corps avec sa monture, sa cape rouge est soulevée par le vent, et sa main droite dégantée semble désigner la route qui conduit à l'immortalité. L'empereur avait approuvé l'idée du tableau et il avait dit au peintre « Allez-y, commencez ». David lui répondit avec plaisir « Mais donnez-moi au moins quelques heures de pause ». Et Bonaparte lui dit alors « Pour que faire ? Lorsque vous avez peint Léonidas au Thermopyles, est-ce que vous avez fait poser Léonidas ? Non ? Eh bien alors. » C'était là de ces réparties foudroyantes dont l'empereur avait le secret. Et je puis vous en parler en connaissance de cause, car je suis en train d'écrire un film qui s'appellera Napoléon, où je vais raconter le grand homme tout comme j'ai conté Versailles, afin qu'il en soit le pendant. Et je m'applique actuellement à découvrir dans sa correspondance privée, comme dans ses proclamations, certaines de ses formules brèves et sans réplique, dont le style est exceptionnel, car si l'on peut attribuer à D'Alembert une phrase de Diderot, aucune hésitation n'est possible devant une phrase de l'empereur, elle ne peut être que de lui. Je veux vous en citer quelques-unes qui sont comme des traits dans les deux sens du mot, car elles vont droit au but, et elles le portraiturent comme des traits de crayon formels. Il a dit de lui-même « J'ordonne ou je me tais ». Il a dit « L'obligation de payer à l'entrée des églises est une chose révoltante. On ne doit pas priver les pauvres, parce qu'ils sont pauvres, de ce qui les console de leur pauvreté ». Il a dit devant la tombe de Jean-Jacques Rousseau, il eût peut-être mieux valu pour le repos de la France que ni Rousseau ni moi n'eussions existé. À Sainte-Hélène, il a dit à ceux qui l'avaient accompagné, vous vous illustrez en me restant fidèle. Il a dit un jour, les hommes de génie sont des météores destinés à flamber pour éclairer leur siècle. Mécontent de son ministre des Finances, M. Barbet-Marbois, il lui demanda de bien vouloir lui rendre immédiatement son portefeuille. L'autre lui demanda, j'ose espérer que votre majesté ne m'accuse pas d'être un voleur. Et l'empereur lui répondit, je le préférerais 100 fois car la friponnerie a des bornes tandis que la sottise n'en a pas. Et alors, miracle inouï, parmi toutes les lettres d'amour, la plus belle de toutes, trouvée unanimement la plus belle de toutes, est une lettre de l'empereur adressée à la citoyenne Bonaparte. Aucun écrivain, aucun poète n'a, semble-t-il, mieux exprimé l'amour ardent d'un être pour un autre, et cette lettre la voici. Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloignés de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur. Elle occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si au milieu de la nuit je me lève pour travailler, c'est que cela peut avancer de quelques jours l'arrivée de ma douce amie. Et cependant, dans ta lettre du 23 au 26 Ventose, tu me traites de vous. Vous toi-même. Ah, mauvaise. Comment as-tu pu écrire cette lettre? Qu'elle est froide. Et puis du 23 au 26, reste 4 jours. Qu'as-tu fait, puisque tu n'as pas écrit à ton mari? Ah, mon ami, ce vous et ces 4 jours me font regretter mon antique indifférence. Malheur à qui en serait la cause. Vous, ah, que sera-ce dans 15 jours? Mon âme est triste, mon cœur est esclave, et mon imagination m'effraie. Tu m'aimes moins, tu seras consolé. Un jour, tu ne m'aimeras plus, dis-le-moi, je saurai au moins mériter le malheur. Adieu, femme, tourment, bonheur, espérance, et âme de ma vie, que j'aime, que je crains, qui m'inspire des sentiments tendres, qui m'appellent à la nature, et des mouvements impétueux aussi volcaniques que le tonnerre. Je ne te demande ni amour éternel ni fidélité, mais seulement vérité, franchise sans borne. Le jour où tu me diras « je t'aime moins » sera le dernier de mon amour, le dernier de ma vie. Si mon cœur était assez vil pour aimer sans retour, je le hacherais avec les dents. Joséphine, Joséphine, souviens-toi de ce que je t'ai dit quelquefois. La nature m'a fait l'âme forte et décidée. Toi, elle t'a bâti de dentelles et de gaz. As-tu cessé de m'aimer? Pardon, âme de ma vie. Mon esprit est tendu vers de vastes combinaisons. Mon cœur entièrement occupé par toi a des craintes qui me rendent malheureux. Je suis ennuyé de ne pas t'appeler par ton nom. J'attends que tu me l'écrives. Adieu. Ah, si tu m'aimes moins, tu ne m'auras jamais aimé. Je serai alors bien à plaindre. La guerre cette année n'est plus reconnaissable. J'ai fait donner de la viande, du pain, des fourrages. La cavalerie armée marchera bientôt. Mes soldats me marquent une confiance qui ne s'exprime pas. Toi seul me chagrine, toi seul le plaisir et le tourment de ma vie. Un baiser à tes enfants dont tu ne parles pas, pardi, ça allongerait tes lettres de moitié. Et les visiteurs à 10 heures du matin n'auraient pas le plaisir de te voir. Femme! Comme elle est belle, n'est-ce pas, cette lettre? Et comme elle nous aide à mieux comprendre, à mieux aimer l'âme ardente de l'empereur. Et comme on s'explique aussi qu'entre toutes les lettres d'amour des écrivains les plus fameux, celle-ci ait été désignée toujours comme étant la plus belle.
Pierre Lost vous a présenté Sacha Guitry dans Les 100 merveilles.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 26 avril 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.